7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Merci de nous retrouver, madame, messieurs. Bienvenue à cette première édition de la matinée. Affaire de la dissolution de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro liée à une récente condamnation d'un de ses membres. Mais dans cette édition, quelques précisions avec l'avocat Albéric Girabeau. La fermeture de l'ancienne caste à Bobo Anador est entrée dans sa phase active mercredi, entre déguerpissement et réinstallation en Dautré. Tout à l'heure, le reportage terrain de Jean-Claude Mabéa. En page africaine, POX, la Centrafrique mise sur la prévention après la découverte de cas dans le pays, on l'a dit, de variole du singe. Vous aurez vers la fin de cette édition la revue des titres présentée par Jean-Claude Comé. Et puis, dernière articulation, l'invité de la rédaction. Ce vendredi, notre invité est Gwéphie Donal, directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier des régions du Poro et de la Bagoué. Il répondra aux questions de Tommy Corona, questions relatives à ses prérogatives et à son action sur le terrain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Justice, parlant de l'actualité de l'affaire de la dissolution ou pas de GPS de Guillaume Soro, liée à une récente condamnation d'un de ses membres, nous avons cherché à savoir, auprès d'un avocat, si le recours en appel ou en cassation suspend une décision rendue en instance inférieure. Et là-dessus, joint par Francis Cassis, Maître Girabeau fait les précisions suivantes.
En cassation, en matière civile, il y a des domaines spécifiques. Par exemple, l'état des personnes, l'état foncier, où le pourvoi est suspensif. En matière correctionnelle, le pourvoi n'est pas suspensif, sauf si la loi en dispose autrement. Mais si il n'y a pas de texte spécial, le pourvoi ne suspend pas l'exécution de la peine en matière correctionnelle.
Mais pourquoi en matière correctionnelle, le pourvoi ou l'appel ne suspend pas la décision inférieure?
Non, l'appel, c'est différent. En matière correctionnelle, l'appel suspend l'exécution. C'est seulement le pourvoi. Donc il y a une différence entre l'appel et le pourvoi. En matière correctionnelle, s'il y a un appel, l'appel suspend la décision inférieure. C'est le pourvoi seulement qui ne suspend pas. Même en matière civile, l'appel le suspend. Que ce soit en matière correctionnelle ou en matière civile, l'appel suspend les décisions inférieures, la décision de première instance. Mais le pourvoi ne suspend pas les décisions rendues en appel, sauf cas spécifique. La loi précise bien les matières qui sont suspensives en matière correctionnelle en cas de pourvoi.
Voilà, vous avez entendu à l'instant Maître Girabeau Albéric, interrogé par Francis Cassis. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, dirigé par Charles Blégoudé, a pris acte de l'appel lancé par Laurent Gbagbo à Benoît le 17 juillet. Bly Roselin, premier vice-président du COGEP, a fait cette annonce jeudi 22 août au siège du parti à Cocody, précisant que le président du COGEP prendra le temps d'examiner sa réponse. Il a également évoqué la récente vidéo de Blégoudé diffusée sur les réseaux sociaux et sa rencontre avec le PPACI à ce sujet. Écoute.
Un élément vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, je voudrais faire une précision. Effectivement, ces propos sont du président Charles Goudé. Il y a une semaine de cela aussi, il y a du parti ici. Le COGEP fêtait ses 9 ans en tant que parti politique. C'est une centre de formation qui est interne. Et comme le COGEP est représenté massivement de la diaspora, nous avons fait un direct sur Internet pour permettre à nos militants qui sont à l'extérieur de suivre la formation. Je ne comprends pas comment des gens peuvent extraire cet élément de son contexte et aller l'exposer sur les réseaux sociaux, lui confier un destinataire imaginaire, nous savons à quelle fin. Ces messages s'adressent à nos militants et non au président Laurent Gbagbo. Là, aujourd'hui, nous avons besoin d'unité pour que nous puissions demander au régime d'ouvrir le débat politique à travers le dialogue politique, inclusive que nous demandons. Même le président Gbagbo et nous avons paraffé une plateforme le 9 août dernier au sein du PCRDA. On nous prend une autre plateforme. Il y a de quoi s'interroger. C'est pour le même combat, je pense. Nous avons reçu une délégation après l'avoir acté ensemble une autre plateforme qui a eu lieu le 9 août dernier au sein du PDCI. Après cela, nous avons reçu une délégation du PPACI. Vous rassurer. Le COGEP ne fonctionne pas selon le calendrier des autres, mais selon lui, son agenda personnel et par rapport à ses priorités, ses objectifs. Donc, nous jouons, nous marchons selon notre timing à nous. Ce n'est que le 14 août que nous avons reçu, nous avons pris acte et on ne va pas se cacher. Cette délégation sera officielle et dite par le président Charles Blégoudé lui-même.
Voilà, c'était Bly Roselin, premier vice-président du COGEP. l'ancienne casse d'Abobo à Nador est définitivement fermée depuis le lundi 19 août 2024 et cette décision des autorités municipales d'Abobo est entrée dans sa phase active le mercredi 21 août. Impuissants, les ferrailleurs ont assisté à la destruction de leur magasin et sommés de rejoindre le nouveau site d'Abobo, Undotré. Et ce jeudi, Jean-Claude Mabéa s'est rendu sur ces deux sites. Son reportage.
Les ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador, impactés par ce déguerpissement, crient leur désarroi. Lamine Diakité et Koulibaly y souffrent.
C'est décevant. Moi, j'ai demandé à ce qu'on nous tourne des magasins. Ça fait plus de 3 ans. Monsieur le maire n'était même pas encore maire. Donc on va doucement, c'est la population, c'est pas normal. Il faut que ça monte au sommet. Le président doit traiter cette affaire.
Il y a des situations de 30 millions dans les banques. On de trucs, toute une vie. Il y a en place 6 personnes, c'est les pères de famille. Bon, c'est là, le coin est classique. On est allé voir l'autre côté, on n'a pas eu la place là-bas. C'est pas quoi on va faire. Là, actuellement, on a chômage. Donc, la rentrée est proche. C'est pas comment. On va s'arranger pour acheter les affaires.
Le président de l'association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, qui appelle ses membres à la retenue, continue de plaider auprès des autorités municipales. Cissé Amadou.
Je demande à mes compatriotes de se retenir. Nous ne sommes pas en stade de violence, nous sommes en négociation toujours. Mais ce que je demande, ils ont cassé les magasins, les pièces sont exposées. Donc, ils laissent maintenant les ferrailleurs vont récupérer les pièces parce qu'il y en a tellement de magasins qui ont été cassés.
Cette décision de la mairie de fermer définitivement ce site d'Abobo à Nador est irrévocable. Vocable à marteler le 8e adjoint au maire, Diabaté Bay.
Je l'ai dit à plusieurs occasions que la casse s'étend sur environ 40 hectares. 40 hectares, ça ne peut pas se traiter en un jour. Ça ne peut pas se traiter en 2 jours. Ça dépend de comment nous allons progresser sur le terrain. Mais nous le ferons le temps des tiers milieux de l'itération. Même si ça doit prendre un mois, nous allons le faire.
À noter qu'un espace d'un hectare et demi a été aménagé sur le nouveau site d'Abobo Ndotré pour la relocalisation des ferrailleurs.
Merci Jean-Claude Mabéa. Promiscuité, Abidjan, Riviera, Abatin, les habitants de la cité Oriba, Domelo 2, se plaignent de bruit et poussière provenant selon eux d'une entreprise riveraine de briques. Et en retour, celle-ci se dit prête à accéder à leur requête après discussion entre les deux parties. Explication de Baudelaire Kofi.
Saisi de cette affaire de voisinage désagréable, nous avons interrogé le président du conseil syndical de la cité Oriba Domelon 2, Herman Blessoui.
On a fait un contact avec les responsables de la fabrique. On leur a dit qu'on a deux problèmes avec eux. La fabrique étant hors de la cité, elle provoquait des nuisances sonores et l'émission de poussière. Il y a environ 6 mois qu'on a constaté, ou un peu moins.
À quel moment est-ce que c'est la journée, la nuit, le matin?
Non, c'est dans la journée, aux heures normales de travail. Donc après des échanges, on est convenu sur le fait qu'ils doivent construire ou insonoriser pour ne plus que ça fasse du bruit, pour ne plus que ça dégage la poussière.
Et là-dessus, la société de la briqueterie joue l'apaisement. Son responsable Dambélé, Ousmane.
Au CMI, on a pris contact avec les spécialistes à l'effet de régler ces deux problèmes. Les questions liées à la sonorité de la machine, on est largement dans le temps, d'ici 15 à 20 jours, pour le régler. En ce qui concerne la poussière, la source d'émission qui nous concerne, concerne le gravier. De ce point de vue-là, nous avons pris des dispositions. On peut assurer les résidents de la cité qu'ils n'auront pas de poussière venant de chez nous.
L'entreprise de fabrication de briques a jusqu'à fin septembre pour trouver une solution à ces actes de promiscuité. Nous ont assuré les deux parties.
En page africaine, Centrafrique, le ministère de la Santé confirme avoir enregistré 9 cas avérés de Mpox dans le pays et tire la sonnette d'alarme sur les mécanismes de prévention, même si cette maladie est sous contrôle dans ce pays d'Afrique. Afrique centrale, rappelons-le, les autorités sanitaires préfèrent prévenir que guérir. En Centrafrique, comme en RDC, les professionnels donc sensibilisent sur les symptômes du Mpox. Et puis au cours des 4 dernières semaines, près de 100 cas suspects de variole du singe ont été détectés sur l'ensemble du territoire centrafricain. Pour l'instant, les principales zones touchées par cette maladie en Centrafrique sont le Mbomou à l'est, le Kémo au centre, le Lobaï au sud-est et la capitale Bangui. Et puis rappelons que sur le terrain, l'Institut Pasteur et le ministère poursuivent les campagnes de sensibilisation. Toujours au cœur de cette édition à 7h09 pour nous, c'est le temps de recevoir Jean-Claude Comé pour la revue des titres. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Les condamnations récentes par la justice de 2 proches de Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, ont fait réagir certains partis de l'opposition comme le PPACI, qui comme le souligne Génération Nouvelle, dénonce les pratiques du RHDP, des pratiques que le parti de Gbagbo qualifie de dictature, souligne le confrère. Le quotidien d'Abidjan et Le Temps relève aussi que le PPACI de Gbagbo pointe l'instrumentalisation de la justice par le régime. Pour sa part, Soir Info retient que le PPACI appelle à la libération immédiate des deux cadres Prosoro. Quand le nouveau réveil affiche, le PPACI invite le gouvernement à mettre fin à ses méthodes de musellement de l'opposition. Avec ses récentes condamnations des membres du mouvement GPS par un mouvement dissous, le Béli intrépide s'interroge en ces termes. Le rapprochement Ouattara-Soro est-il encore possible? S'intéressant lui aussi au rapprochement entre le PDCI et le PPACI le matin, sur la base des différentes sorties du PPACI sur des dossiers sociopolitiques, se demande à propos justement du PDCI si le parti de Tidiane Thiam va tomber dans le piège de positionnement stratégique du parti de Gbagbo. Poussant sa réflexion, le confrère le matin se demande également si l'alliance de l'opposition peut tenir face aux défis de la cohésion. Là-dessus, les sorts affichent sans embâche ce titre « Appel au rassemblement, opposition ivoirienne, la grande cacophonie ». Le journal parle de Kouba déjà constaté. Le sujet de l'union de l'opposition intéresse aussi Dernier Heure Monde qui se propose de faire un zoom sur ces différents appels à l'union de l'opposition. Parlons justement de l'appel au rassemblement de l'opposition. L'avenir écrit à sa une que Blé Goudé tourne le dos à Gbagbo et s'allie à Simone à quelques mois de la présidentielle de 2025. Notre voix a la même lecture que son confrère sur la position du leader du COGEB qui, pour le journal, dit non à Gbagbo par rapport à l'appel de Benoît. Toute autre chose qui intéresse la presse, l'avenir propose un dossier sur comment l'orpaillage illégal menace le nord de la Côte d'Ivoire. Et Fraternité Matin, de son côté, s'est intéressé à comment les 64 ans de l'hôpital psychiatrique de Benjerville a été célébré récemment par les pensionnaires de l'établissement. C'était fou chez les malades mentaux, c'est le titre du reportage que propose justement le confrère.
Merci. Merci à vous Jean-Claude. Et puis je rappelle qu'on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir à 8h pour une autre édition. En faveur de sa distinction de super prix national éléphant d'or, Gbefi Donald, directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier des régions du Poro et de la Bagoué, s'est prêté aux questions de Tommy Corona, notre correspondant régional. Ses sentiments par rapport aux différents prix, questions relatives à l'entretien des routes et autres éléments intéressés donc par cette personne-là. C'est bien cela qu'il est question dans cet entretien dirigé par Tommy Corona.
Bonjour Gbefi Donald.
Bonjour monsieur.
Vous venez de recevoir le super prix national éléphant d'or et bien d'autres distinctions. Comment appréciez-vous ces prix?
C'est vraiment une satisfaction pour nous, une satisfaction pour tous nos collaborateurs, tous les partenaires avec qui nous travaillons au quotidien. Et aussi, ce prix est dédié à monsieur le ministre de l'équipement de l'entretien routier et ensuite au directeur général des infrastructures routières pour la confiance qu'ils ont placée en nous nommant à tête de cette structure depuis 2020.
Et c'est aussi une raison de redoubler d'ardeur au travail.
Oui, il y a tellement de choses à faire dans cette région-là, la région du Poro de la Bagoué. Seulement que la région du Poro même compte plus de 3000 km de pistes, et c'est beaucoup, 3000 km, un réseau dense, avec non seulement que 200 km de bitume. Il y a beaucoup à faire. La route est vraiment cruciale. Nous devons toujours travailler pour aller de l'avant.
Abordons la question justement de l'entretien des routes, notamment les routes principales et secondaires de votre zone de compétence.
C'est pas la même catégorisation, c'est pas la même nature des travaux sur une route en terre qu'une route bitumée qui généralement est faite pour une durée approximative de 15 à 20 ans si l'entretien se fait correctement. Par contre, les routes en terre, puisqu'elles n'ont pas de structure, elles sont soumises aux intempéries, qu'est la pluie. Cet entretien est fait en deux faces, en deux composantes. Il y a le programme d'entretien routier qui se déroule chaque année par la Géroute. Et en dehors de ça, on a un programme des besoins spécifiques qui sont faits par le ministère en eux-mêmes, à travers la Direction générale des infrastructures routières, qui fait des sollicitations des populations, fait désenclaver des localités. Et ces travaux sont faits généralement en régie, quoi, en régie partielle. par l'État lui-même pour pouvoir répondre aux besoins des populations.
Alors certes, les routes, on l'a dit, les routes principales et les routes secondaires, qu'en est-il des pistes rurales? À qui incombe cette charge? Autrement dit, qui est chargé de leur entretien?
L'entretien est fait par l'agence gestion des routes à travers un programme d'entretien routier. Mais en dehors de ça, il y a un autre programme que l'État est en train de mettre en place qui est en régie totale ou en régie partielle. En dehors de ça aussi, il y a quelques entretiens qui sont faits par les collectivités locales comme les mairies, les conseils régionaux.
Beaucoup de gens disent que le goudron sur nos routes, c'est un goudron qui n'est pas de bonne qualité. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est biodégradable. On parle de l'aspect de la durée de vie. Quelle est votre réaction justement à ces critiques-là?
Les critiques, on en tient compte. Mais il faut dire que ce ne sont pas des critiques qui sont généralement fondées parce que la route, lorsque nous la concevons, nous la réalisons pour un certain nombre de durées de temps. Et pour que les puissent atteindre cette durée de temps, il faut des entretiens courants périodiques et cet entretien a demandé un coût d'investissement. Il faut prioriser les investissements parce que les ressources sont limitées, les ressources sont rares. Le ministère a mis en place un certain nombre de politiques pour que les entreprises soient responsables de la qualité des travaux qu'elles exécutent parce que nous les payons pour qu'elles fassent un travail de qualité. Je vais rassurer les usagers que les routes que nous faisons sont des routes de qualité.
En cas de dommage de la route, par exemple, quand un camion ou autre engin se renverse. Est-ce qu'il y a un mécanisme de dédommagement? Si oui, est-ce le propriétaire du camion ou de l'engin mis en cause ou votre ministère de tutelle ou sa direction régionale que vous dirigez?
Le ministère a pris un décret pour ça, pour que tous ceux qui font ces actes de vandalisme soient responsables de ces dommages causés sur la chaussée de la route parce que les investissements coûtent cher.
Les automobilistes, les motocyclistes, les populations, donc les usagers en général de ces routes-là, pensez-vous qu'ils peuvent ou doivent contribuer eux aussi à leur entretien et comment?
La route devient un patrimoine, fait une sensibilisation de la communauté pour qu'on puisse préserver ce patrimoine-là. La route, dès qu'elle est faite, elle n'appartient plus au ministère, ça appartient à tout le monde, tous les usagers.
Autre éventuel contributeur, les mairies et les conseils régionaux dont les territoires sont traversés par ces route. Quelle est ou quelle peut être leur responsabilité ou leur part en termes d'entretien routier?
Les mairies ou les collectivités en général ont un budget qui intervient plutôt dans la voirie parce qu'il y a les routes nationales et puis il y a la voirie urbaine. Il y a des choses différentes. La voirie urbaine, c'est les voies du quartier, etc. C'est la responsabilité de ces collectivités. Mais comme je dis, la route coûte extrêmement cher. Elles n'ont pas du tout les ressources financières pour pouvoir faire les entretiens qu'il faut. Dès lors, elles sont obligées de se rabattre sur l'État pour peut-être le financement de ces projets-là.
Je vous remercie.
Merci aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Entretien de ce matin, donc, question relative à l'entretien des routes ainsi que l'éventuelle contribution des usagers et autres collectivités décentralisées à l'entretien des ouvrages. C'est bien cela qu'il était question dans cet entretien. Tommy Corona recevait Biffy Donald, directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier des régions du Poro et de la Bagoué. C'est la fin de ce 7h. Le rappel des titres. Affaire de la dissolution de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, liée à une récente condamnation d'un de ses membres. Dans cette édition, vous avez suivi la précision de l'avocat Albéric Girabeau. La fermeture de l'ancienne casse d'Abobo à Nador est entrée dans sa phase active mercredi, entre déguerpissement et réinstallation en Doutré. Le reportage de Jean-Claude Mabéa vous a été proposé. Et puis, actualité en Centrafrique, le pays mise sur la prévention après la découverte de cas dans le pays de variole du singe. Nous serons là à 8h pour une seconde édition d'actualité. D'ici là, retrouvez Christelle Yesseau pour les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, pour vous. Et avec vous.